Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Les ingrédients d'une escalade régionale des affrontements au Moyen-Orient. Hier, Israël frappait 12 cibles militaires syriennes et iraniennes en Syrie. Nous serons à Tel Aviv dès le début de ce journal. Que faire des anciens combattants de Daesh arrêtés au Kurdistan syrien? La question se pose à nouveau avec ces deux Britanniques impliqués dans des assassinats et des détentions d'occidentaux. Aucun pays ne les réclame pour les juger. Nous entendrons le plaidoyer du journaliste Nicolas Hénin, ex-otage lui-même de ces deux hommes. Reportage également mieux vaut tard que jamais au premier sommet national français sur l'épilepsie, une maladie qui touche pourtant entre 600 et 800 000 personnes dans notre pays, mais qui continue de faire peur et de créer des discriminations, on l'entendra, pour ceux qui en souffrent. Enfin, détour par le carnaval de Rio, où les reines des écoles de samba affichent leur engagement contre le harcèlement sexuel avec des tatouages à même leur corps. Jamais depuis le début du conflit en Syrie, Israël n'avait mis le doigt si loin dans l'engrenage. Tout est allé très vite hier. L'État hébreu interceptait un drone iranien dans son ciel et frappait en représailles 12 positions militaires côté syrien. L'artillerie syrienne abattait dans la foulée un F-16 avion de combat de Tsahal. Tous les ingrédients donc réunis pour une escalade régionale qui couvait depuis des mois, des années même, autour du conflit syrien. L'ONU appelle à présent toutes les parties à faire preuve de retenue, mais à Tel Aviv, Benjamin Netanyahou prévient qu'Israël est prête à toutes les éventualités pour se défendre, Marie Semelin.
En Israël, c'est d'abord le choc de voir les images de la carcasse d'un avion de combat tourner en boucle sur les chaînes de télévision. Ça n'est pas arrivé depuis plus de 30 ans et le symbole est fort. Si le pays mène des frappes discrètes en Syrie depuis le début de la guerre, notamment contre le Hezbollah libanais, eh bien désormais les alliés du régime syrien proche de l'Iran ont les moyens de riposter. Dans la soirée, l'État hébreu a reçu le soutien du département d'État américain après ces frappes de représailles en Syrie. Israël a le droit de se défendre, dit le communiqué, qui dénonce également les activités nuisibles de l'Iran dans la région. C'est en substance le message qu'a également délivré Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, hier soir dans une courte vidéo. Israël veut la paix, mais continuera à se défendre contre un ancrage de l'Iran en Syrie. Un message martelé depuis des mois et de nouveau transmis hier au président russe Vladimir Poutine, engagé auprès de Bachar al-Assad. Pour beaucoup d'observateurs ici, la Russie est la seule en mesure aujourd'hui de désamorcer un risque d'escalade à la frontière israélo-syrienne, et les Israéliens trépignent de ne pas voir Vladimir Poutine prendre leur parti.
Vladimir Poutine et Moscou qui se bornent à exprimer pour l'instant leur profonde inquiétude face à ces frappes israéliennes d'hier sur des positions militaires syriennes. Il est inacceptable, dit le Kremlin, de créer des menaces contre la vie et la sécurité des soldats russes présents en Syrie. La Syrie où se poursuit également sur le front nord-ouest l'offensive turque contre les Kurdes d'Afrin. Ankara a subi hier ses plus lourdes pertes avec un hélicoptère de combat abattu et 11 soldats tués. Une autre facette du conflit syrien, c'est la question du devenir de ces anciens combattants de Daesh capturés sur les terres conquises par les Kurdes au nord du pays. Depuis vendredi, cette question s'incarne dans le sort de deux Britanniques. Ils ont été arrêtés le mois dernier, soupçonnés d'avoir été impliqués dans la torture et l'assassinat d'otages occidentaux en Syrie. L'américain James Foley, par exemple, serait parmi leurs victimes. Ces deux djihadistes qu'aucun pays pour l'instant n'a réclamé pour les juger. Et pourtant, il est essentiel que des procès aient lieu pour ces faits. C'est la conviction, en tout cas, de Nicolas Hénin, le journaliste français. L'un des deux Britanniques en question a été son geôlier.
En fait, le procès, c'est ce qui permet d'arrêter le cycle de la vengeance. La vengeance, c'est une violence qui appelle une autre violence. La justice, c'est un processus de mise à plat qui permet d'éteindre les violences. Je souhaiterais avoir, pour ces djihadistes, comme pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ma captivité, des procès les plus incontestables possibles, avec les meilleurs standards de droit possibles. J'ai peur que ce soit pas possible aujourd'hui au Kurdistan syrien, parce que le système judiciaire est très rudimentaire, et de toute façon, on a un vrai problème de sécurité. Il n'y a pas dans le nord de la Syrie, d'infrastructures pénitentiaires qui permettent des captivités longues, et on peut s'attendre à ce que ces djihadistes soient condamnés à des peines longues. Donc de toute façon, il n'y a pas l'infrastructure pour les prendre en charge après le procès. Ce que je voudrais, après j'ai pas d'exigence particulière sur le lieu d'une extradition ou le lieu où se tient le procès. Ce que je veux, c'est un, la justice, donc un procès le plus incontestable possible, et ensuite des conditions de détention qui permettent qu'on soit sûr qu'il n'y a aucun risque d'évasion.
Le journaliste français Nicolas Hénin, qui est aujourd'hui à la tête d'une société de recherche sur la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, il répondait à Anne Fauquemberg. France Culture, il est 9h passé de 5 minutes. On l'avait quitté hier en VRP des entreprises françaises auprès des investisseurs émiratis. C'était à Abu Dhabi. On retrouve aujourd'hui Édouard Philippe à Dubaï. Il s'apprête à y vanter les réformes engagées par son gouvernement au World Government Summit. C'est un sommet que l'on surnomme le Davos du Golfe. Un discours rodé dès hier pour le Premier ministre français auprès de la communauté française sur place, Yannick Falt.
Quand nous sommes partis hier, il neigeait. Et quand nous reviendrons demain, il pleuvra.
Il n'est pas là pour commenter la météo, mais le climat économique et social. Et comme souvent, Édouard Philippe assure le service après-vente de l'exécutif, qui est en train, dit-il, de réparer le pays.
C'est ce qu'a entrepris le gouvernement, en transformant son droit du travail, en faisant en sorte de donner la souplesse nécessaire pour être compétitif, en transformant la fiscalité, pour baisser les prélèvements obligatoires dans le temps, pour faire en sorte que notre pays soit plus attractif aux investisseurs étrangers.
Le Premier ministre égrène les réformes une à une, école, bac, apprentissage aussi, avant de reprendre le slogan élyséen « France is back », mais en français dans le texte.
Le président de la République dit parfois que la France est de retour. Il a raison. Vive la République, vive la France.
Représentant de la mondialisation heureuse, les expatriés sont plutôt conquis, partagé entre prudence bienveillante et enthousiasme.
C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un président de la République qui est plus jeune, qui a une belle image, qui est très doué en com. Maintenant, il faut voir sur les sujets du quotidien, concrètement, si on est vraiment à la hauteur des attentes des Français, tout simplement.
Quand on parle avec nos camarades étrangers, on a l'impression que la France est de nouveau prise un petit peu, peut-être plus au sérieux, depuis ces quelques mois.
France is back?
Yes, of course.
Yannick Falt pour France Culture. Une maladie à présent, une maladie chronique qui touche entre 600 et 800 000 personnes en France. L'épilepsie a dû attendre hier en France avant d'avoir son premier sommet national dédié donc à ce dysfonctionnement électrique du système nerveux qui touche environ 5% de notre population. Et avec la méconnaissance de la maladie vient aussi trop souvent un rejet de la part de la société des discriminations qui commencent dès la petite enfance. Louis-Valentin Lopez.
Un cas parlant, c'est celui de Rose. Elle a 4 ans, il y a 2 ans, elle était exclue de sa crèche. Son père, Fabrice Augustin, se souvient.
J'ai reçu un email qui me disait qu'elle était exclue et qu'il fallait pas qu'elle revienne à la crèche le lendemain, qu'il fallait que je vienne récupérer ses affaires. Il a surtout insisté sur le fait que Rose n'avait pas sa place dans la crèche, qu'elle devrait aller dans un institut spécialisé.
Et la mise au ban se poursuit à l'âge adulte. Un tiers des épileptiques est sans emploi. Patrick, informaticien, a assisté à une scène très dure.
Sur mon lieu de travail actuel, il y a une personne qui a fait une crise d'épilepsie, qui a été renvoyée. Le chef commun que nous avons, c'est vanté en réunion d'avoir viré l'épileptique.
Lui-même épileptique, Patrick le confie. La crise, c'est comme une épée de Damoclès qui peut tomber à n'importe quel instant. Alors dans 70 à 80% des cas, les traitements sont efficaces, mais Sophie fait partie des 20% dits pharmacorésistants.
Quand je vais faire une crise quelques heures avant, j'ai des hallucinations olfactives, c'est-à-dire que je sens très fort certaines odeurs.
Et les symptômes pourtant sont connus, souligne l'épileptologue Norbert Kaya.
Tout le monde a déjà vu une crise d'épilepsie devant soi, hein, que ce soit au supermarché ou dans sa classe.
Pourtant, au stigma vient souvent se greffer l'incompréhension.
On pense que les personnes épileptiques sont des personnes complètement tarées.
Je pense que c'est lié à des peurs ancestrales, on pense aux malins. Il y a une peur de la vision de la maladie, de la manifestation de la maladie qui doit faire partie de l'inconscient collectif.
Au congrès, les malades sont unanimes. L'objectif, c'est gagner en visibilité. Prochaine étape, initier une stratégie nationale de prise en charge de l'épilepsie.
Louis-Valentin Lopez. Avant de refermer ce journal, un détour par le Brésil où c'est la saison des carnavals. Chars, musiciens et danseuses des écoles de samba, des reines de la fête qui s'engagent à même leur peau contre le harcèlement sexuel. Explication depuis Rio avec Anne Vigna.
C'est un petit tatouage bien reconnaissable et que les femmes mettent sur l'épaule, la poitrine, les cuisses ou même les joues. Des mots en noir, un nom est un nom. Il s'agit d'un tatouage créé par un financement collaboratif qui a déjà permis d'en distribuer 25 000 dans les villes de Rio, São Paulo et Salvador, là où le carnaval de rue est très important. Depuis une étude réalisée l'an dernier, on sait que les cas d'harcèlement sexuel augmentent de 88% pendant la période du carnaval. Du coup, cette année, le secrétariat d'attention l'État aux femmes, comme le Bureau de l'ONU pour les femmes, ont créé des campagnes d'information qui ciblent le comportement des hommes et rappellent qu'après le nom, il s'agit de harcèlement. Un collectif d'artistes a également créé une campagne intitulée « Du respect pendant le carnaval » en mettant en musique les commentaires les plus machistes. Les ONG féministes sont, elles, regroupées pour créer un questionnaire en ligne où les femmes sont invitées à dénoncer anonymement le harcèlement qu'elles ont vécu pendant le carnaval. L'objectif est de regrouper un maximum d'informations sur l'agression pour ensuite en tirer des enseignements, notamment les endroits les plus fréquents où ces attaques ont lieu. Surtout cette année, le message qui passe le plus sur les réseaux sociaux est celui de la protection et de la solidarité. Réagir si une fille se fait importuner et ne pas la laisser seule serait la meilleure arme contre le harcèlement.
Anne Vigna, et on se quitte avec un mot de météo. Nuages, pluie sur la majorité du pays à l'exception de l'extrême sud-est et des températures cet après-midi. 2 à 6 degrés de l'Alsace au Limousin, 7 pour Paris, Brest et Lyon jusqu'à 11 pour Biarritz et 13 pour Perpignan.